Le grand entretien du 6-9 de l'été sur France Inter. Bonjour Hervé Le Treut.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du climat, professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences. Incendie en Grèce et en Scandinavie, vague de chaleur au Canada et au Japon, une mousson très soutenue en Asie, pas de pluie à Lille dans le Nord depuis plus de 2 mois, une alerte à la canicule en Île-de-France. Après, on s'en souvient, une semaine de froid polaire fin février sur toute l'Europe. Hervé Le Treut, cette année 2018 est-elle un bon résumé de ce qui nous attend dans les décennies à venir?
Alors c'est difficile de le dire avec certitude. Ce qui est par contre certain, c'est que le climat de la planète globalement se réchauffe de manière presque continue depuis 40 ans maintenant. On a dépassé les niveaux qui sont ceux de la variabilité naturelle du climat il y a une quinzaine d'années. Donc on est dans un contexte nouveau. Et ce contexte nouveau appelle des situations aussi qui seront nouvelles. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'atmosphère, c'est un fluide qui est très turbulent, qui offre des milliers de combinaisons possibles. Donc il y a toujours des éléments de surprise, il y a des choses qui sont imprévisibles. Donc la déclinaison de ce réchauffement sous forme locale est toujours un petit peu délicate. Mais aujourd'hui, on est face à une situation qui est modifié à échelle globale. Et là, on peut penser quand même que c'est les premiers symptômes de quelque chose de nouveau en termes climatiques.
Réchauffement global avec une hausse des températures moyennes et de moins en moins des phénomènes extrêmes. Il faut rappeler, Hervé Le Treut, que le réchauffement climatique, c'est d'abord la fonte des glaces et la montée des océans. Vous parliez de l'atmosphère, mais tout se passe dans l'océan.
En fait, toute la chaleur qui se stocke au niveau de la planète, c'est effectivement dans les océans. Dans les premières centaines de mètres d'océan, on a ce réservoir de chaleur qui est dû à ce que les gaz à effet de serre empêchent de s'échapper vers l'espace. Donc on a une capture en fait de chaleur qui se fait dans les océans et qui donne à ce changement une dimension de long terme. Les océans mettent du temps à se réchauffer, on mettra encore plus à se refroidir. Et donc on est face à des situations qui sont très largement irréversibles, d'autant plus que les gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère. Quand on parle du CO2, moitié du CO2 est mis injecté dans l'atmosphère à un moment donné, est encore là. En tout cas, ses effets sont encore là pour moitié.
Vous nous dites... Pardon,
après 100 ans. Donc c'est une échelle de temps extrêmement longue. Donc on est face à une situation qui est très largement irréversible et qui donne un contexte très fort à tout ce qui peut se produire plus localement.
C'est toujours un peu la question piège pour les climatologues, même si aujourd'hui elle est à peu près tranchée. Vous nous parliez d'une vraie rupture depuis une quinzaine d'années. Là, c'est l'activité humaine qui est responsable ou principalement responsable?
Pour tout ce qui est évolution globale de la planète, en amenant des certitudes sur le fait qu'on a un réchauffement. On peut parler de certitudes. Après, comment se manifeste ce réchauffement? Quelles sont les régions qui sont impactées? Où sont les effets un peu violents, extrêmes de ces manifestations de réchauffement, les canicules? Tout ça, c'est quelque chose qui se dessine un petit peu plus au hasard, comme un grand puzzle. Mais ce puzzle se construit petit à petit. On voit que les zones qui se réchauffent correspondent assez bien à ce que les modèles avaient anticipé déjà depuis quelques années.
Et justement, est-ce que vous pouvez anticiper d'autres comportements, puisque vous nous dites que des modèles avaient anticipé ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez y voir un petit peu ce que vous pouvez voir, ce qui se dessine pour nous, en tout cas sur des grandes régions?
Oui, sur des grandes régions, on peut commencer à le dire. Ce qui est difficile, ce sont les phases extrêmes, hein, les canicules très, très fortes comme celles que l'on a aujourd'hui. Les anticiper dans le détail, mais on sait qu'elles ont nécessairement, elles vont nécessairement être plus intenses, plus fréquentes dans le futur. La zone...
Des vagues de chaleur et des vagues de froid en hiver également, comme on a connu cet hiver le Moscou-Paris?
De manière générale, les hivers seront moins froids. Alors après, on peut avoir des situations qui sont nouvelles parce que de manière compliquée. Hein. Et celles-là, on ne sait pas bien les décrire. Donc, quand on voit des vagues de froid un petit peu spécifiques, on peut se poser des questions. Ceci dit, globalement, les hivers sont et seront moins froids. On est dans une phase de réchauffement liée au gaz à effet de serre, avec des manifestations locales qui sont souvent un petit peu imprévisibles. La zone qui se réchauffera de manière la plus intense, c'est la zone polaire. C'est là qu'on a une zone sentinelle.
Polaire nord.
Polaire nord surtout, polaire sud un petit peu. Et puis, la zone la plus complexe, c'est probablement la zone intertropicale, où on a probablement aussi les effets les plus violents de du changement climatique, mais ça ne se manifeste pas nécessairement en termes de température, parce que quand il fait très chaud, on a des orages violents, des tempêtes.
Voilà, c'est ça, on aura plutôt des cyclones, des typhons, ouais, selon la région où, voilà, on se trouve. Hervé Lautreut, il y a les conséquences humaines des vagues de chaleur, il y a des morts, il y a une gêne pour ceux qui travaillent, il peut y avoir de l'asthme, de l'urticaire, il y a aussi les conséquences pour la biodiversité. Le changement climatique, c'est aussi un changement dans la biodiversité.
Oui, alors le vivant réagit de manière extrêmement rapide aux signaux climatiques, aux températures d'abord, à tout ce qui est lié et qui est plus compliqué au cycle de l'eau aussi. L'eau est quelque chose qui est transverse à toutes les manifestations du climat et qui joue un rôle majeur dans toute cette problématique. Donc oui, on est face à quelque chose qui va dépasser très largement les conséquences directes du changement climatique. C'est toute une perturbation très, très large de ce qui fait la vie sur Terre.
Et qu'est-ce que ça peut donner pour des végétaux ou des animaux, par exemple ?
Les premières choses, c'est qu'on a des migrations, hein, des migrations animales. On le voit au niveau des zones de pêche, par exemple. On voit des migrations d'espèces. On le voit dans nos montagnes. On voit aussi sur le sol français, par exemple, on a des espèces comme le chêne vert qui commence à progresser, d'autres qui ont plus de mal à se développer.
Des oiseaux qui ne migrent plus en Afrique de l'Ouest comme avant. Ils s'arrêtent en Méditerranée.
Absolument. On a tout. Tous ces changements ont lieu aujourd'hui. Après, il y a des changements qui sont aussi liés, qui se combinent avec l'activité humaine. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus nombreux sur la planète. On l'utilise aussi pour se nourrir. Donc, il y a tous les changements qui passent par quel usage des sols on fait, comment on le fait. Il y a en France des régions, des zones qu'on exploite moins, en fait, on laisse la forêt se repousser à certains endroits, c'est quelque chose qui peut favoriser des feux. Donc, on est face à un système qui se dérègle, c'est le mot qu'on utilise souvent, qu'il faut apprendre à gérer de manière un peu différente.
On évoquera avec les auditeurs les moyens de lutter contre ça, les plans canicules, les bilans des COP, entre autres, mais on va parler désormais un peu plus local, parce que là on a parlé global, et vous avez travaillé aussi sur le local. Par exemple, vous avez rédigé un rapport qui concerne l'Aquitaine. Il va faire 39 degrés à Bordeaux la semaine prochaine. En quoi cette région pourra être transformée sur son littoral, ou dans ses vignobles, ou dans ses forêts de pins?
En fait, on a essayé effectivement, alors c'est un travail très collectif, hein,
que j'ai animé, que j'ai coordonné. Avec d'autres chercheurs.
Avec beaucoup d'autres chercheurs qui sont plus authentiquement, enfin moi je suis bordelais d'origine, mais qui sont plus authentiquement installés localement. Parce qu'en fait, c'est un travail effectivement multidisciplinaire. Quand on regarde une région, le changement climatique, il se manifeste au niveau de toutes les activités, que ce soit des activités agricoles, de zones vulnérables qui sont multiples. La montagne est une zone très vulnérable, le pastoralisme disparaît.
Donc là, on est dans les Pyrénées.
Les Pyrénées, ou dans le Limousin, puisque là.
Oui, c'est Massif grand... Central, désormais, la Nouvelle Aquitaine.
La Nouvelle Aquitaine. Les villes sont des zones extrêmement vulnérables. Les littoraux sont des zones vulnérables à cause du relèvement du niveau de la mer et aussi à cause des changements qu'on peut avoir dans les régimes de vent ou de courant et l'érosion qui se produit sur les littoraux. Donc tout ça forme un tout. En fait, quand on veut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau d'une région, on a besoin de comprendre l'ensemble de ces processus, comment ils s'articulent les uns avec les autres et comment on peut gérer cet ensemble de problèmes qui vont venir de manière simultanée, quelquefois un peu contradictoire, par rapport aux impératifs de gestion de la région.
Vous parliez des activités agricoles. Prenons la vigne, ça veut dire que dans quelques années, on fera plus du vin rouge, mais du Porto dans le Bordelais ?
Alors, on est assez proche de cela en termes d'années. Le degré alcoolique du vin a déjà beaucoup augmenté. Donc, c'est un souci pour les vignerons dans la région et pour les fabricants de vin d'essayer de maintenir le degré alcoolique à quelque chose qui ressemble effectivement à du Bordeaux.
Le trait de côte, on a vu beaucoup de reportages, notamment à la pointe girondine, la pointe du Médoc. On voit, c'est la mer qui avance et puis des immeubles qui sont au bord de s'écrouler.
Oui, alors il y a deux types de processus. Il y a le relèvement du niveau de la mer, alors qui est sensible surtout dans l'estuaire de la Gironde, dans des zones un peu lagunaires, et qui est plutôt quelque chose qu'on va craindre pour les années futures, hein, c'est quelque chose qui commence. Et puis, il y a l'érosion. L'érosion côtière, c'est quelque chose qui est modifié par la modification des régimes de vent, de vagues, qui est beaucoup plus difficile à cerner, mais c'est un risque. C'est un risque de modification de tous ces paysages côtiers qu'on doit essayer d'anticiper. Il est beaucoup plus difficile à appréhender que ce qui peut être directement lié au relèvement du niveau de la mer.
Hervé Le Treut, on va au standard.
France Inter. Le 6-9 de l'été, intervenez.
Vous pouvez intervenir au 01 45 24 7000 et vous êtes nombreux au standard de France Inter ce matin. Bonjour Gilles.
Bonjour.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Merci. Donc nous avons connu la canicule de 2003. Donc j'aimerais savoir quelles sont les améliorations concrètes que les Français peuvent noter en 2018.
Amélioration à quel niveau Gilles ?
Ben, pour la population française.
Pour la façon de vivre ces vagues de chaleur. Merci beaucoup, Gilles. Hervé Le Treut.
Alors là, je suis moins dans mon domaine de compétence. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des plans canicules qui sont établis. On les a vu mis en œuvre ces jours-ci, qui sont des plans pour essayer de protéger la part la plus vulnérable de la population, les personnes âgées, les enfants. Et je crois que ça a été réfléchi dans la plupart des villes depuis 2003 et que ça a été maintenu actif depuis 2003 justement, où il y a eu une prise de conscience assez forte. Après, je crois qu'il y a sur le long terme certainement à réfléchir à l'urbanisme de nos villes. Comment est-ce qu'on le conçoit et on est confronté à des impératifs qui sont un petit peu différents. Par exemple, si on veut vraiment diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on parle souvent de densification des villes. Densification des villes, c'est aussi quelque chose qui limite éventuellement qui augmente les îlots de chaleur, qui laisse développer.
Ça fait une cloche.
Ça fait voilà. Donc il faut faire attention à bien balancer les effets qui sont ceux de l'adaptation à un changement climatique qui pour partie inévitable, et puis ce qui peut nous aider justement à ne pas voir augmenter ce changement climatique et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'urbanisme est quelque chose de difficile à concevoir, enfin, c'est un thème qui est important. Comment est-ce qu'on doit concevoir l'urbanisme ? C'est très différent dans des villes comme Paris ou dans des villes où les banlieues explosent et on n'a pas de transport en commun. Et donc il y a des situations très différentes qu'on doit apprendre à gérer en termes d'urbanisme.
Un effet pervers de la canicule de 2003, c'est vrai qu'aujourd'hui, et tant mieux, on prend soin des personnes âgées, on essaye de les appeler, il y a des campagnes d'information. L'effet pervers, c'est l'installation de la climatisation dans plein de maisons de retraite. C'est très bien à l'intérieur, c'est très mauvais à l'extérieur, la clim.
Ben donc la clim, c'est aussi quelque chose qui génère des émissions de gaz à effet de serre. Donc si elle se développe, et elle se développe maintenant à l'échelle mondiale de manière extrêmement forte, c'est une contribution importante aux émissions de gaz à effet de serre. Donc de ce point de vue-là, il vaut mieux des fontaines et des jardins et des
brumisateurs, des façades végétalisées.
Voilà, donc il y a des méthodes qui peuvent être effectivement plus adaptées au souci de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre et de ne pas contribuer au réchauffement de la planète.
8h34, bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à tous. Monsieur Le Treut, bonjour. Si nous voulons réaliser notre projet de diminuer de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, disons à l'échelon à la 2050, il faut faire un effort absolument colossal de financement. Alors actuellement, la Banque Centrale Européenne inonde les banques privées.
Frédéric, on vous entend très très mal. Donc je vais résumer votre question. Je suis désolé, la liaison est assez mauvaise. Hervé Le Treut, la question de Frédéric, c'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est une transition globale, pas une simple transition énergétique, et ça coûte cher.
Oui, alors on a besoin effectivement à la suite de l'accord de Paris, tous les pays de la planète ont fait des contributions. Et ces contributions sont insuffisantes aujourd'hui. Donc il y a besoin de quelque chose qui accélère le processus. Alors je pense que dans le financement est un des éléments, il y en a d'autres, il y a le développement de technologies nouvelles, il y a l'implication forte de la population, l'éducation de la population, mais le financement est un aspect majeur aussi de ces problèmes climatiques. De toute façon, il faut avoir un système d'accélération de ce qui se fait, qui aujourd'hui est insuffisant, si on veut rester sous les 2 degrés, comme l'accord de Paris le mettait, c'est un signal minimum prévu par l'accord de Paris, normalement.
Toujours autour de cette question de la transition globale, Antoine, sur franceinter.fr, nous demande, est-ce que croissance, société de consommation et protection de l'environnement sont compatibles ?
Alors c'est une question qui est devant nous. Je pense que on parlait de l'échelle régionale. Je pense que c'est un bon laboratoire pour tester ces problèmes-là, parce qu'on se trouve confronté effectivement à des choix à faire entre des exigences qui sont et des dangers qui sont multiples. Il y a les dangers climatiques, les dangers liés à la biodiversité, mais aussi les phénomènes sociaux, les phénomènes politiques. Aujourd'hui, sur tous nos territoires, on est obligé de prendre des décisions sur ces problèmes qui sont contradictoires, les prendre très vite et les prendre en sachant qu'on va être confronté à une situation qui sera différente dans 20-30 ans, donc en anticipant ce qui peut se produire dans le futur. Tout ça, c'est un effort de réflexion qui est très important à faire et que je pense qu'on doit essayer de faire globalement au niveau au niveau politique, au niveau de toutes les institutions de l'État, de manière assez approfondie.
Autre message sur franceinter.fr, Fab, je ne sais pas si c'est Fabrice, Fabienne ou Fabien, qui nous dit « On sait qu'une croissance infinie dans un monde fini est impossible. » Vous partagez ce diagnostic, cet axiome, une croissance infinie dans un monde fini ?
Oui, bien sûr. Alors après, il y a beaucoup de formes de croissance différentes. On a une croissance démographique, on a une croissance économique, on a une croissance dans l'utilisation des ressources de la planète, y compris les ressources minérales. Je pense que tout ça doit effectivement être contrôlé à un moment ou à un autre. C'est pas possible de continuer indéfiniment cette trajectoire.
01 45 24 7000. Bonjour René.
Bonjour messieurs. Il y a quelques années, j'ai entendu évoquer la disparition du Gulf Stream sur nos côtes, pour la Bretagne en ce qui me concerne, et je voulais savoir si c'était toujours envisagé, cette disparition progressive.
Hervé Le Treut, merci René.
Alors il y a deux causes qui font que le Gulf Stream...
On réexplique ce qu'est le Gulf Stream.
Alors,
très rapidement.
Le Gulf Stream, c'est un courant qui vient du Golfe du Mexique, un courant océanique des Caraïbes, et puis qui vient en diagonale au travers de l'Atlantique jusqu'à l'Europe du Nord.
C'est un courant tempéré.
Et c'est un courant qui amène de la chaleur essentiellement. Alors quand on dit les choses un petit peu simplement, on dit que c'est la raison qui fait qu'on a des hortensias en Bretagne. Il y a aussi une contribution de l'atmosphère qui est importante pour ce déséquilibre entre les températures froides du Québec et chaudes de l'Europe à la même latitude.
Alors notre Gulf Stream, il est où ?
Alors le Gulf Stream, il est aujourd'hui, il a deux causes. Une cause qui ne bougera pas, qui est liée à la rotation de la Terre. Alors c'est difficile de rentrer dans les détails, mais... Et puis il a une extension vers le nord qui est liée au fait que les eaux du Gulf Stream peuvent plonger à haute latitude, et si les régions polaires se réchauffent, cette extension vers le nord du Gulf Stream peut être menacée. On peut avoir un recul vers le sud. Alors, on a des signes que ça pourrait commencer, et de ce point de vue-là, on voit sur toutes les cartes de réchauffement de la planète aujourd'hui, une petite tache blanche qui est en haut de l'Atlantique et qui peut correspondre au fait que le Gulf Stream est un peu moins puissant
maintenant,
et qu'il s'affaiblit. C'est assez difficile à mesurer. Ça ne remet pas en cause le fait que globalement, puisque c'est un signal de refroidissement, cette disparition, ce recul vers le sud du Gulf Stream, mais ça ne remet pas en cause le fait que globalement on va se réchauffer.
Avant de retrouver Jean-Claude au standard, cette question, Hervé Le Treut, qui vous tient à cœur, les injustices climatiques à travers le monde, en gros ce sont les pays riches qui polluent et ce sont les pays pauvres qui en payent les conséquences ?
Oui, en gros, c'est cela. En fait, on a un système de mélange des gaz à effet de serre sur l'atmosphère qui répartit le signal climatique à l'ensemble de la planète, quelle que soit la contribution d'un pays donné à ces émissions de gaz à effet de serre. si on regarde la France, en fait, au-dessus de nos têtes, les gaz qui ont été émis sur notre territoire, les gaz à effet de serre qui sont plus dans l'atmosphère et qui ont été émis sur notre territoire, c'est 1,5% à peu près. Donc, on est tous très dépendants les uns des autres, et cette dépendance, bien sûr, elle est beaucoup plus gênante pour les pays qui n'ont pas contribué, qui payent quand même l'addition.
C'est ça, tous dépendants, mais pas tous pollueurs.
Voilà, mais pas tous pollueurs. Donc, en fait, et on est aussi inégaux en termes de vulnérabilité. Je disais que les régions qui sont proches de l'équateur sont des régions où on peut avoir des réponses climatiques qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus marquées, avec des tempêtes, des cyclones, des sécheresses prolongées. Ça accroît encore cette injustice.
Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour messieurs. Voici ma question. Le climato-scepticisme est-il encore présent chez les spécialistes du climat? Et si oui, régresse-t-il, stagne-t-il ou se renforce-t-il? Et question subsidiaire, que pouvez-vous répondre en termes simples à un livre paru il y a quelques années et qui titre « L'innocence du carbone ». Autrement dit, le CO2 est-il vraiment un gaz à effet de serre?
Merci de votre question, Jean-Claude. Y a-t-il encore des climato-sceptiques parmi vos collègues, confrères et consoeurs, Hervé Le Treut?
Alors le mot climato-sceptique recouvre des choses très très variées en fait. La négation brutale du fait que justement le CO2 puisse être un gaz à effet de serre, puisse causer un réchauffement, je crois qu'elle est beaucoup moins fréquente. Et puis on a maintenant un réchauffement de la planète qui est là, qui se manifeste et qui est presque impossible d'expliquer autrement que par les gaz à effet de serre. Après, ce qui est plutôt persistant, c'est la manière de prendre en compte ces changements-là et la vigueur avec laquelle on veut les prendre en compte. Je dirais que le danger aujourd'hui est plutôt un climato-aquabontisme, quoi, ou une climato-indifférence par rapport à des choses qui apparaissent très souvent comme le même message qu'on rabâche, alors qu'en fait on est face à un problème qui est nouveau parce que les gaz à effet de serre se cumulent dans l'atmosphère. On est beaucoup plus proche des échéances qu'on l'était il y a quelques années. Et c'est un message qu'on a du mal à faire passer aujourd'hui, le fait que, bien sûr, on redit un petit peu les mêmes choses, les climatologues, mais on les redit dans un contexte qui a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années.
La question conclusive mais vaste question de Christophe sur franceinter.fr. Nous n'avons pas été capables de lutter contre le changement climatique. Allons-nous réussir à nous y adapter?
Alors, on s'y adaptera d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce qui est en jeu, c'est de bien s'y adapter, de le faire justement en maintenant nos valeurs, de le faire dans un climat où qu'il soit pas un climat de guerre, de confrontation, en maintenant aussi la biodiversité. Je pense que dans ce qu'on doit préserver, qui a une valeur inestimable, parce qu'on sera jamais le qu'on reconstruire, c'est la biodiversité. On est des animaux, on en dépend. Donc je crois que pour bien s'adapter, il faut quand même avoir en tête ce que l'on veut préserver comme valeur et comme patrimoine.
Tiens, s'adapter, je vous avais dit que c'était la dernière question. En fait, non. Véronique, à l'instant, nous dit quels sont les deux ou trois mauvaises habitudes à perdre au quotidien pour justement essayer de faire quelque chose
Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui des choses qui sont, entre guillemets, qui devraient être faciles, parce que moi je suis... On est chacun de nous des mauvais exemples pour ça, et j'aime pas faire la morale à ce niveau-là, mais le gaspillage, il est partout. Si on regarde les choses, le gaspillage, et tout le gaspillage d'énergie, c'est un gaspillage de ressources et pour le climat de la planète.
Le gaspillage, peut-être laisser la voiture au garage tant qu'on peut.
La meilleure solution, effectivement, pour les transports, par rapport aux enjeux climatiques, c'est le transport collectif. Oui.
Hervé Le Treut, merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Inter. Vous êtes climatologue, membre de l'Académie des sciences et professeur à la Sorbonne. Très bonne journée.